Warning. Si vous n'avez pas encore vu le film qui suit et que vous ne voulez pas que l'intrigue vous soit dévoilée, arrêtez ce podcast maintenant. On vous aura prévenu.
I've been watching you, Jack. You're curious. What are you looking for in those books? Do they bring back old memories?
You won't get anything from me. My memory's been wiped to protect the
security of the mission. Yes. You can't have your precious memory falling into the wrong hands now, can you? You just repair drones. Don't go into the radiation zone. Don't ask too many questions. Not part of the job description.
Уж не собираетесь ли вы учить меня смыслу жизни?
Une rupture du continuum espace-temps a produit une nouvelle séquence chrono-événementielle.
The robots are coming.
I want more life, fucker.
24 secondes.
Nous sommes le mardi 7 mai 2013. Bonjour et bienvenue au 16e épisode de 24 Quarks Secondes, le podcast bimensuel des mordus de science-fiction, lors duquel nous repassons à travers des films et séries que nous avons tant aimés, ou pas parfois. Si vous écoutez ce podcast pour la première fois, sachez que vous pouvez retrouver tous les épisodes précédents sur le site web 24 Quarks Secondes, c'est 24QUARKX.com, et sur iTunes, bien sûr. Et cette semaine, nous parlons du film Oblivion du réalisateur Joseph Kosinski. Et avec moi ce soir, nous avons l'éternel Olivier Sabineau. La savoureuse Marie-Louise Garipi et deux invités, Philippe Toupin, visual effect artist vedette, et moi-même, Guillaume Laborie, en remplacement de Nico.
Merci Guillaume.
Ah, il a super bien fait ça. On aurait cru Nick.
Alors...
C'est merveilleux.
C'est un spécial aujourd'hui parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé voir Oblivion avec des amis, comme vous pouvez entendre, et Nick ne peut pas être avec nous, malheureusement. Il a des obligations familiales. Alors, comme d'habitude, je vais d'abord vous demander, quand avez-vous vu Oblivion pour la première fois? Toi, Olivier.
Bien, moi, par hasard, je voulais aller le voir au cinéma ce soir et je vous ai rencontré, alors c'est ce soir.
Moi, ça fait environ 17 ans que je voulais aller voir ce film-là, puis j'ai attendu la troisième fin de semaine de sa sortie pour pouvoir aller le regarder, histoire de ne pas avoir trop de foule qui interrompe mon visionnement. Alors, voilà.
Toi, Philippe?
Ben moi, je marchais dans la rue, fait que c'est ça, j'ai été là.
Moi aussi, par hasard, comme ça, après avoir reçu un courriel dont on ne dira pas qui, je me suis ramassée au cinéma Banks-Crochet pour voir Oblivion. Et l'effet a été massu, n'est-ce pas?
Alors, quoi en penser, hein?
Quoi en penser? Un petit extrait d'abord?
Un petit extrait d'abord.
Your ship came down. Jack managed to pull you from the wreckage. But none of your crew survived. You've been in Delta sleep for a long time.
Sixty years, at least.
I have to get back to her ship. It's too dangerous down there. You need to rest.
Becca.
On va faire un bref tour de table pour que chacun donne son appréciation du film. On va commencer par toi, Olivier.
Alors, quoi penser de ce film? Quelle belle étrangeté cinématographique. Cinématographique, est-ce le bon mot? Je ne sais point. Ça m'a laissé sous le choc. J'ai ruminé le premier tiers du film, presque la moitié, en me disant non, 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 c'est pas possible. Ça se peut pas. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Et là, tout d'un coup, on rentre dans le vif du sujet, on en apprend un peu plus sur l'histoire et on rentre dans le référencement hallucinant où c'est finalement, on se rend compte que c'est un hommage manqué à peu près tous les grands films de science-fiction qui nous laisse pantois parce que c'est pas un hommage qui est très bien fait ou très subtil. C'est un film qui va devenir probablement un film culte, mais pas pour les réalisateurs, pas pour les raisons que le réalisateur voulait au départ. J'ai l'impression que c'est pratiquement du camp. Alors, j'ai peut-être autant détesté le film que je l'ai aimé en bout de ligne, mais ça m'a laissé sur un drôle de mood. Toi, Marie-Louise?
Ah non, je vais passer à nos invités quand même. Vas-y, Philippe, vas-y.
Bien, en sortant de la salle, Olivier a mentionné vouloir aller voir le film une deuxième fois. Pour moi, l'expérience ne sera pas nécessaire. J'ai détesté le film dès le premier visionnement. Donc, je voudrais m'étayer un petit peu plus, mais... Bien, dès l'ouverture, j'ai pas été impressionné, mais j'ai laissé le film une chance de courir. Mais il a couru dans la mauvaise direction, puis j'ai pas couru avec lui. Puis je l'ai regardé, s'écraser, fait que...
moi, je vais dire, j'ai eu beaucoup de misère. Mais en fait, en général, quand je regarde un film qui se fait aujourd'hui, j'ai de la difficulté à me situer en tant qu'individu. Je suis déboussolé, je perds mes repères, puis je les repère encore. Fait que c'est un double repère, là. Puis en tout cas, j'ai essayé de mon mieux de saisir l'histoire dans sa complexité, parce qu'il y a une complexité quand même. Il y a des ambiguïtés, il y a des laissés pour compte dans cette histoire-là. Puis je pense que le plus grand laissé pour compte, c'est le spectateur. C'est ça. Olivier a dit que c'est une étrangeté. Moi, je dirais que c'est une aberration. Ce qui n'est pas si loin dans le même répertoire d'idées, mais j'y apporte quand même ma nuance. Il y a tant d'incompréhension au travers de ce film-là. C'est nébuleux. C'est comme regarder une planète dans un microscope.
Wow! Quelle présentation! J'ai plus rien à dire après ça.
C'est ce qu'on a fait depuis le début du podcast.
Donc, merci Guillaume, merci Philippe, merci Olivier.
Et toi, Marie-Louise?
Ben moi, je sais pas, je pense que d'une certaine façon, Guillaume a bien résumé ma pensée générale du film, et Philippe aussi. Je n'irai pas jusqu'à dire que j'ai envie de voir le film une deuxième fois. Je comprends pourquoi Olivier a envie de le voir, parce qu'en fait, j'avoue que peut-être, pour une raison très simple, c'est que je me dis, est-ce que le réalisateur, il était vraiment conscient? Je sais pas comment dire. J'ai l'impression que c'était juste une série d'hommages mal foutus, comme si c'était presque une satire, ce film-là. T'sais. J'ai presque envie de revoir le film en me disant, est-ce que le réalisateur, au fond, c'était comme de l'humour, puis il est juste vraiment mal compris, tu sais? Puis que nous, on l'a pris au sérieux, puis qu'on n'aurait juste pas dû. Parce que c'est assez... Ouais, au début, moi, j'essayais d'embarquer dans le film, en fait. Toi, Olivier, t'as dit que non, mais moi, j'essayais vraiment. Là. Pendant les trois premiers quarts d'heure, c'est très mauvais signe quand pendant trois quarts d'heure, tu te dis, il est peut-être bon, ce film-là, finalement. Il y a peut-être quelque chose de bien. T'es déjà en état que t'es pas dans le film. T'sais, ça montre qu'il y a un problème avec le film. Mais j'étais ambiguë. Mais certainement pas par rapport au rôle de Tom Cruise que j'ai trouvé... C'est-tu Tom Cruise au bout... À son... Puis, enfin, il y a tellement de choses à dire sur ce film-là. Vas-y, je t'accueille.
Ah oui, mais là, il faut continuer. Écoute, aberration, en fait, même. Il y a des longs bouts du film où j'ai pensé à une aberration infecte. Il y a des certains moments du film où j'ai été rempli de réjouissance à cause de l'absurdité de ce que le réalisateur essayait de faire. Je pense que lui était très sérieux dans sa démarche. C'est ça le problème. Mais il a tellement voulu en mettre plein la vue, il a tellement voulu mettre des grosses références pour plaire au monde, mais ça donne l'effet contraire. Il s'est planté. La musique, le son du film, ça, c'est une autre affaire qui... Belle départ, ça m'a sorti la conception sonore. Il a essayé de faire un Star Wars de un George Lucas de lui-même, mélangé avec du Inception, comme Philippe le dit. La musique ressemble un petit peu à du Vangelis, mais au goût du jour. C'est insupportable. Le film sonne trop... Mais pas de la bonne manière. C'est juste trop lourd. Puis on essaie de rentrer dans l'histoire, on est complètement déconnecté. Mais. Hein, Guillaume? Hein, Philippe?
Ben, moi, il y a un moment musical qui m'a bien parlé, là, parce que j'aime beaucoup le band qui a fait de la trame sonore. Ben, en fait, qui est à l'origine de certaines pistes sonores. M83, ben, il y a une séquence qui se passe dans la piscine où, pour absolument aucune raison, le personnage principal décide de mettre un peu de piquant dans le récit en proposant à son acolyte de lui montrer quelque chose. Là, il pourrait se passer de quoi dans le récit, mais non, à la place, elle le regarde avec ses beaux petits yeux, puis elle dit « Ah, moi, je vais te montrer quelque chose! » Puis là, elle l'amène dans la piscine, puis là, il y a du M83 qui joue, puis ça, c'est fucking hot. Puis genre, il se baigne.
Je pense que c'était supposé être la fille puis le gars qui était hot là-dedans, pas la musique.
Ouais, ben la musique était vraiment bien, c'était over-épique. J'ai le goût d'aller acheter l'album, courir en magasin, courir acheter l'album.
Donc, Philippe vient de parler de le seul moment de qualité du film, finalement.
Ben, on voit la fille tenue de dos aussi, puis elle est assez hot, merci. Fait que j'avoue que c'est un des moments que j'ai le plus apprécié.
Ah ouais, puis vraiment, moi, d'habitude, qui trouve les gars hot, là, Tom Cruise, j'ai tellement pas trouvé sexy. D'abord, il est quand même vieilli, là, mais c'est pas juste ça, c'est qu'il est juste comme... C'est-tu juste moi, il est plate à mort?
Ben, moi, je trouve que comme il est quand même fidèle à lui-même, là. Genre, chacun des grands artistes, ben pas artistes, mais comédiens hollywoodiens, va présenter dans sa filmographie des points qui leur sont caractéristiques. Puis je pense que dans le cas de Tom Cruise, il y avait l'incompréhension du jeune premier qui redécouvre son monde. Puis ben moi, je l'ai trouvé assez attirant, là, surtout après le deuxième tiers où est-ce qu'il y a une balafre sur le nez. Là. Moi, j'ai trouvé ça assez cute. Là. C'est un bel ajout.
C'est un fétiche pour les petits saignements là, et tout.
Ouais, belle à lui-même, effectivement. Il est à peu près du même calibre que dans War of the Worlds. Là. C'est du grand Cruise.
Ouais, mais c'est Cruise peut être quand même un comédien qui a de l'allure. Là.
Il est très talentueux, ce gars-là. Il a travaillé avec Kubrick. Il se débrouille très bien, mais il est digne de bassesse aussi.
Ouais, ben, dans Magnolia, puis dans plein d'autres films, quand même. Ben, Magnolia, Kubrick, puis peut-être une couple d'autres. En tout cas, donc voilà. À part ça, le récit, cette belle histoire, cette histoire formidable. Qu'as-tu à dire sur le récit?
Ben, on peut pas continuer de parler des filles dans le film. Genre, de parler de Tom Cruise, là, on pourrait parler des filles, là.
Y a-tu vraiment quelque chose à dire sur les filles?
Ben, ouais, honnêtement, ben, il y a un très beau choix de casting, sauf que les deux filles, je trouve qu'elles se ressemblaient un petit peu. Puis, il y a un certain moment du récit. Ouais, c'est ça. Non, je t'ai pas mêlé. Mais c'est ça. L'affaire, ce qui arrive, c'est que j'avais du mal à saisir si c'était voulu qu'elles se ressemblent ou pas. Si c'était comme. Plus tard, ça allait être une forme de twist.
Ouais. Ah, OK, toi, t'as vu quelque chose dans le fait que c'était deux filles super pitounes, belles, une brune puis une rousse.
Ouais, ben avec certains attributs physiques similaires, tu sais, comme la forme du nez ou comme l'arcade sourcilière ou comme la bouche ou le regard ou comme la grosseur des yeux. Ou
la grosseur du cul, hein?
Ouais, mais c'était maladroit, je pense, d'avoir deux filles qui étaient si similaires.
Ben, c'est clair que s'ils avaient casté... Jennifer Lopez dans le rôle de Pocahontas, ça aurait donné un autre film. Mais moi, j'ai trouvé que c'était assez... Ben, j'ai eu de la misère à essayer de les dissocier dans les séquences de flashback qui reviennent épisodiquement à travers le film où est-ce qu'on les voit au sommet de la tour de l'Empire State Building en train de regarder à travers des longues vues, là. Ce moment-là, ça m'a distrait plus que gardé dans le film.
Mais moi, je veux dire quelque chose. Si on parle des filles, là, c'est probablement dans les dernières années des rôles féminins les plus insignifiants puis sérieux typiques qu'il ne peut pas plus y avoir. Là. Excuse-moi, là, genre, sont faibles, fragiles, inutiles, tu sais, genre problématiques même. Il n'y a aucune qualité au niveau héroïque, ces personnages-là. Même la fille, à la fin, qui allait suicider, elle ne suicide même pas. Tu sais, je veux dire, elle n'a même pas une fonction héroïque, pantoute. Non, elle reste, elle fait des bébés, puis non seulement ça, elle va quand même retomber amoureuse de l'autre taouin.
Oui, mais au moins, Pocahontas, on la voit vomir. Fait que c'est dans les deux bons points du film. Il y a quand Cutie Redhead, bonne mère de foyer qui lui fait à manger et qui veille sur sa sécurité. Ben c'est ça, on la voit tout nue dans la piscine avec un beau contre-jour, machin, du M83. Mais là, elle gerbe, puis elle gerbe, puis elle arrête pas de gerber, puis il y en a partout. Puis c'est un chouette moment.
Ben oui, t'es
enceinte. Le liquide respiratoire, c'est le même.
Ouais, mais effectivement, ça pourrait être une façon de voir les choses. Sinon, ils ont fourré une fois dans la cabane.
C'était pas clair, elle était restée habillée, là, tu sais. C'était pas clair qu'il fourrait. Comme il se réveille le lendemain matin, elle est toute habillée et tout. Tu sais, je me disais, m'excuse, quand tu baisses comme tes bêtes, t'es tout nu, là, le matin.
T'as peut-être eu un petit coup de froid pendant la nuit. Ils sont dans une cabane avec des murs en toile, là. Fait que. Toi, tu te serais rhabillé, non? Pas toi? Non? Tu serais resté tout nu toute la nuit? C'est sûr, Marie-Louise? Avec Tom Cruise à côté de toi, tu serais collé peau contre peau avec Tom Cruise? Imagine, Guillaume aurait été là aussi. J'aurais-tu
pas. Ça arrête,
hein? Bon, à Guillaume.
Moi, les filles m'ont pas mal comblé dans cette histoire-là, mais c'est des goûts personnels, là, fait que ça se discute pas, mais. Tu sais, j'aurais vu d'autres visages à la place de ceux que j'ai vus, là. Comme.
Ouais.
Ah, ouais, OK.
C'est peut-être un petit peu trop stéréotypé sur.
Ouais, c'est vrai, mais dans le fond, tu sais, comme je leur attribue des qualités que les personnages eux-mêmes, ils ont, puis ils se démarquent seulement par leur beauté, genre. Tu sais, comme tu disais, ils n'arrivent pas à sortir de. Du standard féminin que les féministes déclament. Et puis, ça alourdit quelque chose qui aurait pu, qui aurait pu décoller puis démontrer comme une ouverture par rapport à comment présenter la femme, ben, future, là. Puis...
Mais c'est même pas une question d'être féministe ou pas, c'est une question que c'est pas intéressant un personnage de même. T'sais, c'est un personnage fade, qui a pas de substance, qui a pas de drame vraiment auquel on croit ou on s'attache. C'est comme un gros stéréotype ambulant, tu sais. Genre comme toute l'histoire du mariage, là, puis la bague, puis le petit côté romantique cucu. Là. Moi, je me suis dit, c'est-tu une joke, là? Tu sais, il nous montre deux fois l'histoire où est-ce qu'ils sont en train de donner la bague. T'sais, le monde en pièces détachées, ça va, on a compris. Il faut qu'il la répète. Il faut qu'il y ait les larmes là, ou l'autre quand elle pleure à n'en plus finir à la fin. T'sais, à un moment donné, c'est juste plate, t'sais, pour un spectateur, un personnage féminin comme ça aujourd'hui.
J'ai entendu quelque chose, je sais pas si c'est vrai, mais il paraît que le film original qui aurait été présenté en projection test à un public cible, qui appelle ça du...
Test screening,
études de marché. Fait qu'ils vont souvent faire ça, les Américains, surtout quand c'est des gros films qui ont un potentiel commercial, ils veulent s'assurer que le public cible, ça les rejoint. Là. Donc, ça a l'air que le monde n'avait pas compris. Fait que là, ils ont été obligés de rajouter. Moi, je m'étais fait dire la voix off au début, mais je vois pas comment le film aurait pu commencer. Je l'ai trouvé trop mielleuse et quétaine et explicative. Mais il pouvait pas ne pas avoir de voix off. Mais le fait peut-être d'avoir de la redondance, puis de la redondance, puis de la redondance dans les flashbacks, puis à chaque fois que t'en as un petit peu plus, peut-être vient du fait d'un public cible de marbre qu'il y avait au départ, qui a absolument rien capté du film. Fait qu'ils ont nivelé vers le bas pour être sûr que tout le monde catch le film.
C'est clairement un blockbuster. C'est un film qui va rentrer dans son argent. Il est 7.2 sur Internet Movie Database, OK? Je ne sais pas s'il va augmenter, il va descendre, mais c'est un film qui rejoint sa cible. Ce n'est pas une cible, effectivement, qui... C'est ça qui est paradoxal avec les films de science-fiction et avec la science-fiction. C'est qu'en science-fiction, tu as vraiment des fanatiques qui connaissent la science-fiction, qui lisent la littérature de science-fiction, qui voient les bons films de science-fiction, les grandes séries de science-fiction. Puis quand ils voient quelque chose comme ça, c'est même pas pour eux. T'sais. C'est une science-fiction pour enfants, si tu veux, mais pour genre. C'est plein de clichés, quoi.
Ouais, un peu comme les trois Star Wars les plus récents. Là. Ça nivelait vers le bas, puis on avait l'impression de voir des films pour enfants. Qui ont passé à côté de leur coup, hein, finalement.
Ouais.
Ben, moi, j'ai vu beaucoup de similitudes avec La menace fantôme, là. Autant au niveau des plans qu'au niveau des twists dramatiques, au niveau des personnages, puis au niveau du nombre d'heures, du nombre de minutes où j'ai pensé à autre chose, là.
C'est vrai que c'est plate, ça finissait pas. Moi, j'en pouvais plus à la fin. J'avais tellement hâte que ça finisse, là.
Surtout que la fin, c'est là où est-ce qu'il va mettre le paquet sur toutes les clichés mis dans le tapis puis les références qui n'ont pas de bon sens. Quand il arrive vers la fin, là, il passe de Independence Day à iRobot, à La Matrice, à Aliens, à 2001, l'Odyssée de l'espace. En dedans d'à peu près 4 minutes, là, il nous fait les plus grosses références, les plus grasses et les moins... les moins coquettes qu'on peut pas imaginer, surtout celle de HAL 9000, l'ordinateur, l'intelligence artificielle qui vire fou. Je veux dire,
je partais à rire carrément dans le cinéma quand j'ai vu ça. C'était grossier, là.
On s'est fucking bidonné, là. Je veux dire, y a 10 fois dans le film, là, on est partis à rire comme des fous. Là. C'est-tu normal?
Ben, je sais pas, là. Moi, je pensais pour votre émission faire un segment uniquement sur les moments qui nous ont le plus fait rire out loud, parlant de cinéma, sans considérer le reste du public, le reste du monde dans la salle qui était quand même pleine. Pour commencer, j'ai vu à quelques moments des gens sortir de la salle. Je pense qu'ils allaient pas aux toilettes. En tout cas, c'était pas des filles, fait qu'ils allaient pas aux toilettes ensemble. D'autres choses, c'est ça, là. Ouais, c'est passé.
C'est quoi le moment le plus ridicule du film, selon toi, là? Là, tu t'es décroché carrément. Moi, j'avoue, là, quand j'ai vu apparaître Morgan Freeman puis que j'ai compris que les extraterrestres, c'était pas des extraterrestres. Déjà que je les trouvais pas hot, les extraterrestres, parce que, tu sais, je me disais, c'était pour faire des extraterrestres, pourquoi est-ce qu'ils ressemblent à des marées? Tu sais, genre, on voyait juste des trucs rouges, puis on les voyait habillés avec un costume qui était comme.
C'est comme banal. Genre des sauts de prédateurs fucking cheap.
Ouais, c'est ça. Donc, déjà au départ, je trouvais ça poche. Puis là, quand j'ai vu que c'était des êtres humains, je fais ah non, ça va être un truc compliqué, ou est-ce que dans le fond, c'est eux autres qui sont les victimes, blablabla, blablabla, qui ressemblent justement à la matrice. Whatever, là. Ça, c'était comme.
Mais le film auquel ça ressemble le plus, parce que la trame narrative de base, là, moi, je l'ai vu venir à peu près à moitié dans le film, je me suis dit non, ils vont pas faire ça. Fait que là, j'ai oublié ça. Et puis, ils ont effectivement fait ça. C'est la même structure narrative scénaristique que Moon, qu'on a déjà fait il y a longtemps. C'est un de nos premiers.
Je pense que c'était notre premier.
C'était notre premier, en plus. Et c'est pratiquement à quelques détails près, là, si on enlève les complexités puis les aberrations de ce qu'on vient de voir, c'est la même histoire.
D'ailleurs, si vous êtes tanné de nous entendre bitcher, on vous conseille d'écouter l'épisode sur Moon, puis d'écouter Moon, puis oublier Oblivion, juste avant.
Moi, je veux juste faire la parenthèse comme quoi j'ai adoré Moon, là. Je sais pas, j'ai pas encore écouté votre émission sur Moon, là. Je croyais que votre premier, c'était le film avec le film de Luc Besson, là.
Mais c'était comme notre épisode pilote zéro. Donc, d'accord. C'est l'épisode zéro, mais le premier officiel, c'était...
Il y a tout le temps les avant-premières, des projections tests.
Moi, j'ai trouvé ça spécial que Morgan Freeman, il se garde son cigare cubain pour la fois où est-ce qu'il va rencontrer Tom Cruise. Là. Tu sais, genre, la Terre est complètement dévastée. Je ne sais pas où est-ce qu'il a pu trouver ce cigare-là. Ça fait 60 ans qu'ils n'en produisent plus parce qu'il y a la guerre qui a rasé la planète Terre, là, comme... Les villes sont enfouies sous des kilomètres de terre. Alors, y a Morgan Freeman qui sort son cigare puis qui le fume devant Tom Cruise qui est attaché. Puis pendant qu'il lui explique et qu'il fume, il essaie de lui faire comprendre sans lui dévoiler c'est quoi la réalité, probablement parce que ça serait trop choquant puis qu'on skipperait la moitié du film.
C'est vrai qu'il aurait pu tout dire, là. Mais dis-toi une chose. Mettons que tu réussissais à le pogner, mon petit Tom Cruise, puis tu fais l'attacher sur une chaise, là. Entre toi et moi, là, même si tu gardes un cigare depuis 60 ans, c'est là que je le fumerais, là. Ah, quelle victoire!
Parlons un petit peu de la science du film, parce que moi, j'aime toujours ça, des histoires d'extraterrestres qui viennent pour, comme... Je sais pas, tu sais, c'est une civilisation qui est capable de faire des voyages interspatiales, là, tu sais, comme genre intergalactiques, on suppose, whatever. Ils viennent d'un autre univers... pour venir comme nous écrapoutiller parce qu'ils veulent comme sucer notre eau, tu sais. Y a-t-il encore quelqu'un qui croit à ces niaiseries-là?
Ben moi, personnellement, j'y crois parce que dans District 9, il était établi que les extraterrestres arrivaient sur Terre puis ils étaient en difficulté. On sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe avec eux. Ils arrivent puis ils sont affaiblis. Puis moi, je trouve assez possible et intéressant d'avoir... T'sais, juste des vagabonds de l'univers dans leur gros vaisseau, puis ils savent plus où est-ce qu'ils sont, puis ça va mal pour eux, là. Donc, je sais pas, ça m'a pas trop dérangé.
Ça, c'est la lecture que t'as faite de l'extraterrestre dans Oblivion.
J'ai pas fait la même lecture, mais depuis District 9, la barre de ce qui passe pour moi au cinéma en tant qu'extraterrestre est assez... Est assez basse, là.
D'accord. Je vois ton argument. Je vois ton argument.
Moi, ce qui m'a déplu beaucoup au niveau de la conception visuelle, là, c'est les maudits vaisseaux des extraterrestres. Si les images sont belles dans le film, fine. Mais Il n'y a rien qui fait de sens. Puis là, tu dis ça, ta question, c'est scientifiquement parlant. Regarde le design. Ils ont fait du design pour se dire, on fait des cool designs. Déjà, moi, je les trouve pas cool, ils sont pas beaux. Ça a l'air d'un design des années 80, mais avec la technologie d'aujourd'hui qu'on pourrait les dessiner à l'ordinateur. Je parle du triangle, je parle des espèces de pros, je parle de son hélicoptère, de tout. Parce que c'est tout du matériel extraterrestre, là. C'est tout, ça vient tout des E.T. Mais côté fonction, là, sérieusement, là, tu regardes, il y a des aberrations pas possibles. Juste le mot du triangle dans le ciel, le mothership, là. Tu rentres, il y a une porte, tu rentres, puis là, c'est vide pendant un kilomètre de long. Là, ça rouvre une autre porte, tu rentres, c'est vide pendant un kilomètre de long. Tu rouvres une autre porte, là, whoop, il y a les petits coffrages matriciens avec des milliers de Tom Cruise dedans puis des rousses tout nues. Puis là, tu rouvres une autre porte, puis wow, en plein milieu, là, t'as juste un petit robot là, avec un œil rouge. Il n'y a pas un autre assis de fucking chien dans tout le vaisseau. Pourquoi l'avoir fait gros de même?
Da.
Ben moi, j'ai vraiment aucune réponse à ça. J'avoue que ça me gosse tout le temps. C'est sûr que ça fait esthétique, là. Ça fait cube, là.
Ouais.
Non, j'ai rien à dire là-dessus, là. Puis pourquoi les esthétiques drones, c'est les mêmes esthétiques drones qu'il y a sur la Terre? Puis, je sais pas, là. Ben, c'est pas si grave que ça, mais parlant en science, ben, j'ai trouvé très plausible l'espèce d'hélicoptère. J'ai trouvé extrêmement esthétique, extrêmement agréable à regarder. Les formes de bulles, les cockpits en bulles sous-marins, je trouve ça extrêmement intéressant. Il y a une séquence où est-ce que tu te croirais dans un jeu vidéo, c'était une séquence des plus plates du film, où est-ce que il poursuit dans un canyon d'autres drones, puis genre il y a plein de lasers partout, tu sais pas qu'est-ce que tu dois regarder. Mais le cockpit se tourne à 180 degrés, puis ça lui permet de viser par en arrière puis tirer. Ça, c'était trop cool. Là.
Ouais, mais ça, scientifiquement parlant, c'est une erreur de design. C'est une aberration, parce que s'il se retourne de bord pour tirer, ce qui est très cool, parce qu'il voit à travers la carcasse de son vaisseau puis tout, mais il regarde plus où ce qu'il va, là. Il peut plus chauffer son essai d'hélicoptère. Puis là, il y a un moment donné, ça fait bip, bip, bip. Hey, tu vas foncer dans un mur. Ouais, mais non, ça marche pas, man. Ça marche pas, là.
Pendant qu'on continue à vous dessiner, moi, je vais juste faire un commentaire parce que je pense à l'histoire des clones.
Dans Star Wars épisode 1.
Je pense à l'histoire des clones, là. Toute l'histoire en bas, ça va encore sur le truc des clones. Pourquoi? Je veux dire, ils ont gagné la guerre. Pourquoi est-ce qu'ils ont besoin d'être humains pour, comme, faire leur bébelle? C'est pas. Tu sais, ils ont des robots qui font. Tu sais, c'est juste l'idée de base, ça a comme même pas de but, là, que Tom Cruise puis la petite puis tout. Ouais, c'est ça. Tu sais, ouais, je veux dire, ça sert à rien, là, qu'il soit là, là. L'histoire tient même pas la route dès le départ.
Ben, j'ai l'impression qu'ils sont vus mous, eux autres, ici, puis ils ont trippé autant que nous, là. C'est juste qu'ils ont juste tout chié ça, là.
Ouais, ça passait sur un poste de film, ils l'ont pogné par satellite. Puis après ça, ils sont venus, on fait « Ah, OK, c'est ça qu'on va faire. »
Ou comme faire exploser la Lune, tu sais pourquoi?
Ah ben ça, c'est pour dévaster la Terre facilement, parce que tu pètes la Lune, j'avoue que ça crée des cataclysmes plus, naturels.
Ouais, hein. Puis tu perds des points de repère. Tu sais, comme tu. Tu sais, si le seul astre que tu vois dans le ciel, c'est la Lune, puis que la Lune n'est plus là, ben c'est peut-être plus te repérer dans la nuit. Fait que c'est peut-être pour ça qu'ils vivent sous la Terre, là, les humains. Là. Je sais pas.
Je pense que c'est plus les.
Non, la Lune, on la voyait. Il y avait des morceaux de Lune tout pété. Ouais. Là. C'était d'ailleurs très beau comme image. Ça, c'était une belle idée, ça.
Ouais, peut-être. Peut-être c'est une bonne idée.
J'ai pas de tu sais, je pourrais rien dire par rapport à ce qui est vrai, ce qui est pas vrai de la Lune toute pétée en morceaux, mais il y a une séquence où la Lune est pétée demain. Tu vois que la Lune est genre pétée dans le ciel. L'affaire, c'est que dès qu'il y a des chunks qui sortent de l'orbite de la Lune ou qui sortent de l'orbite de la Terre, ils partent genre dans la galaxie. Genre, ils partent dans l'espace comme indéfiniment à la même vitesse pour toujours. Fait que ça laisserait pas une traînée comme quand tu pètes un verre à terre, ça laisse une espèce de traînée, genre des cassures, puis là, ça se fige. Non, eux autres, ils continuent sur leur trajectoire jusqu'à ce qu'ils soient captés sur une autre orbite. Fait que,
ouais. C'est un peu bizarre. La forme qu'on voyait, je suis d'accord avec toi, est un peu étrange.
Ouais, c'est belle, mais impossible à ma compréhension.
Ben là, je pense qu'il y a un sentiment général qu'on a le goût de pleurer puis qu'on s'est fait voler 2 heures de notre vie, malgré ce que j'ai dit tantôt.
Mais que t'allais retourner voir le film.
Je vais me laisser un petit break, là, mais je suis sûr que... En fait, la seule raison que je veux le revoir, c'est parce qu'il s'est tellement rempli d'aberrations ignobles que j'ai eu des moments de joie et d'exaltation, de plaisir. C'est du camp, là. J'ai ri du réalisateur dans sa face, dans son film, dans la salle. C'est clair que c'est pas ça qu'il voulait, là. Fait qu'on se fout de sa gueule. Puis ça m'a créé de la joie, malgré tout. Mais c'est quand même, il y a quand même beaucoup de temps volé où t'as l'impression qu'il te prend pour un épais, là. Puis ça, c'est impardonnable, quand même.
On peut peut-être en parler un petit peu du réalisateur qui est Joseph Kosinski, qui nous a donné, on disait tantôt, c'est lui qui a fait Tron, Legacy, puis Archangels. Mais il a fait juste deux films, il a fait Tron... Non, ça c'est
Known For.
All Filmography. J'avais lu qu'il avait fait un remake de Logan's Run. Non, c'est ça. Tron's Legacy puis Oblivion. Ben, sinon, Tron, qui n'était pas un très grand film non plus, donc deux mauvais films, en gros,
si
pour...
On peut comparer Tron et ce film-là, les pour et les contre, si, c'est d'améliorer...
Si tu veux.
Moi, je pense que ça a nivelé vers le bas. Tron était un mauvais film, mais on pouvait plus facilement le prendre au sérieux que celui-là.
Ben, moi, j'ai l'impression que c'est un réalisateur qui se démarque par, genre, sa tentative d'avoir une signature esthétique, genre, au niveau des gadgets puis des affaires de nerd. J'ai l'impression que c'est un tripeur de jeux vidéo moderne, genre beaucoup de lasers, beaucoup de couleurs, beaucoup de design vraiment intéressant. Tron était, à mon avis, moins intéressant visuellement, autant qu'il y avait de couleurs, puis autant qu'il restait dans l'imaginaire, probablement plus que ce film-là va l'être. Tron avait beaucoup de, tu sais, comme les couleurs primaires mélangées avec comme l'espèce de bleu, puis c'était les motos, puis c'était plein de classiques qui avaient été bien récupérés du film original, tandis que ce film-là... Ben, alors, ce film-là, j'ai beaucoup aimé les designs, mais rien d'extrêmement distinctif.
Ouais, tu as dit quand même que les effets spéciaux étaient bien faits.
J'ai aimé les effets spéciaux. J'ai entendu dire que c'était, à la place d'utiliser des green screens pour faire des backgrounds, ils utilisaient ce qu'ils appellent le rear projection. Ils projettent des images sur des toiles pour faire les décors, des images vidéo. À mon avis, je sais pas si c'est vrai, mais j'ai entendu que c'était ça qui avait été fait.
C'est ça que Sam Tom Cruise il disait dans un snippet promotionnel du film. C'est exactement ce qu'il expliquait. Là. Il tournait des séquences en vrai, genre dans des décors comme par exemple au-dessus d'un volcan, et puis il rend la séquence... Dans le film, par rétroprojection sur l'arrière-plan de l'histoire. Là.
C'est une vieille technique qui se voulait vétuste, que finalement, ils ont ramené au goût du jour, parce qu'à l'époque, c'était tout fait. Mettons qu'il y avait une scène de voiture ou n'importe quoi, bien, c'était toute la rétroprojection en film. Puis peut-être que là, la technologie permet de revenir à ces sources-là. Ça, tu disais, Phil, c'est de la projection 4K. Je pense que de pouvoir se payer ça, c'est quand même assez récent, là. De là, peut-être l'intérêt de le faire en green screen dans les 10, 15, 20 dernières années où c'était peut-être plus économique, où ça permettait plus de latitude. Là. Mais moi, j'ai toujours préféré les effets, tout ce qui pouvait être fait in camera, là, des vrais effets mécaniques, plutôt que d'aller barrer ça épais en 3D, là, malgré que tu es tout un artiste de la 3D, Superstar International, Toupin Inc.
Il dit non.
Ah bon, c'est un mauvais juge de lui-même.
Donc, aussi un budget de 120 millions de dollars qui va sûrement rentrer dans son argent. Et le film, à l'origine, faisait 3 heures au montage. On en a coupé une, parce que ça fait maintenant 2 heures, si je me trompe pas.
God.
Alors, heureusement qu'ils en ont coupé une heure.
Oui, bien, je sais pas, en fait. C'est, des fois, quand tu regardes un film, je sais pas, moi... c'est quoi le film de Terry Gilliam là, qui finit plus? Là? Ben, en tout cas, peu importe, genre, n'importe quel film, mais c'est le genre de film où j'imagine pas qu'est-ce qu'ils ont coupé. Comme même si on me demandait de passer à travers le scénario en forme textuelle puis de souligner les passages qui ont été coupés, comme je pourrais pas rien dire. J'ai l'impression que c'est un film qui est tellement vide, que l'histoire est tellement simpliste que c'est quoi vous en pensez? Qu'est-ce qui aurait pu être coupé? Genre, il y a rien qui est développé.
Peut-être qu'ils auraient mis l'accent sur la vie des terriens dans leur tanière sous la terre. Peut-être qu'ils auraient montré une séquence de savoir comment est-ce qu'ils ont réussi à vivre, même si la terre a été polluée par des radiations et compagnie d'explosion nucléaire, donc probablement qu'ils auraient exploré ça. Probablement qu'il y aurait eu d'autres séquences où est-ce que les personnages savent pas ce qui se passe, puis ils se tourmentent dans leur abri dans les airs. Je suis sûr qu'ils ont pensé à bien des scènes d'Ole qui finalement faisaient pas la route parce que ça rend le film encore plus mou qu'il l'est déjà, là.
On fait vraiment une chronique assassine de ce film-là. C'est impressionnant. Mais c'est... Moi, je dois dire qu'avant d'aller voir le film, j'avais entendu dire que ça serait mauvais, OK? Donc, je partais avec vraiment une idée que ça serait mauvais. Donc, d'où ma première demi-heure à me dire, c'est pas si pire que ça, mais en bout de ligne, pour ceux qui nous écoutent, qui avaient espoir de voir un bon film avec Tom Cruise, dans un truc de science-fiction, ben non, ce n'est pas, Spielberg qui veut, c'est vraiment mauvais. Voilà. Parce que War of the Worlds, c'était quand même un film qui se tenait, là.
Non.
Ben oui.
Non.
Oui, oui, oui.
Non.
Oh, on a un prochain débat à avoir avec Philippe Toupin et Olivier sur War of the Worlds.
Oui.
OK, donc je propose qu'on s'écoute un dernier petit extrait, puis qu'on fasse un dernier tour de table pour que vous dites vos recommandations à vos amis.
I want to go on the first thing.
Vicar, do you have any memories before the mission? Before the security went?
Our job is not to remember. Remember.
Do you remember her?
Jack, that was a scav, a beacon that brought her down. We don't know who she is. Or what she is.
Ben alors, voilà, toi Guillaume, c'est quoi ton dernier mot sur Oblivion?
Oblivion, c'est un film qui va tomber dans l'oubli. Même pour un film qui a coûté 120 millions, je pense pas que je vais me rappeler d'aucun des dollars qui ont été investis dans ce film-là. Il y avait quand même deux acteurs de premier plan, là, de la catégorie A, là, comme Grade A Actors, là, de la fine mouture d'Hollywood, puis ça va pas les récupérer. Là, comme, tu sais, c'est pas des rôles qui vont leur permettre de gagner en profondeur dans leur art qu'est le métier d'acteur. Puis le film en tant que tel, c'est surprenamment con. Comme on en parlait tantôt, c'est une autre histoire de clone. Comme, probablement que c'est pour nous rappeler à quel point est-ce que la vie moderne nous rend semblables à nos confrères humains, que dans le fond, c'est là qu'est le péril de vivre, là, que dans le fond, on bénéficie de tous les mêmes outils, qu'il n'y a plus de diversité, puis que notre destruction va tendre à notre similitude. D'ailleurs, il y a une théorie en anthropologie comme quoi est-ce que les humains vont peu à peu, maintenant qu'il n'y a plus de frontières, il n'y a plus de bassins de population qui vont différer des autres, puis on va tous se ramasser à être des bruns aux cheveux noirs. Et puis...
Donc, le lien avec Oblivion?
Ben, le lien avec Oblivion, c'est que dans le film, la grande crainte, ce serait que la Terre soit uniquement composée de Tom Cruise qui nettoie des drones pour être sûr d'éliminer tous les vrais humains qui restent.
Je pense que tu vois une métaphore que le réalisateur n'avait pas pensé.
Comment je peux faire un follow-up à ça, moi, là, voyons donc. Moi, je pense que le film va tomber dans un certain oubli pour mieux revenir comme un film culte, mais, comme je disais tantôt, comme une drôlerie où on aime voir le film pour ses failles, pas pour ses qualités. Comme Soldier. Je pense que Phil a trouvé le lien. Moi, Soldier, c'est un film de Paul W. S. Anderson, film de science-fiction avec Kurt Russell. Film qui a coûté, à l'époque où c'est sorti, il y a à peu près une quinzaine d'années, même un peu plus, qui a coûté à peu près 60 millions de dollars, qui est pratiquement l'équivalent du budget d'Oblivion aujourd'hui, qui est un film de série B, qui ont consciemment fait un film de série B en se prenant au sérieux, en savant très bien que c'est de la boîte ce qu'ils faisaient. C'est un exercice de style réussi à ce niveau-là. Le film, on l'aime parce qu'il n'y a pas d'allure. Là, on tombe presque là-dedans, mais c'est... On l'aime parce que le film a pas d'allure puis qui s'est planté quelque part. Moi, j'ai beaucoup ri, en tout cas. C'est une comédie burlesque, je pense.
Ben, moi, je dirais ça, en fait. Si vous voulez aller le voir avec l'envie de rire puis de vous moquer, parce qu'il y a vraiment... Il y a rien d'édifiant dans ce film-là, mais à aucun niveau. Ben, je veux dire, excepté la technique, là, je veux dire, la direction photo est impeccable... Les scènes d'action sont quand même bien montées. Je veux dire, on va pas leur reprocher de pas savoir faire leur métier pour faire un film d'action blockbuster américain et tout. Mais c'est surtout long, plate, l'histoire est insignifiante, les comédiens sont pas intéressants. Voilà, moi, c'était mon mot de la fin. Inquiète-toi pas, Philippe, je te passe le micro après. Vas-y.
Ça me titille là, d'entendre de bonnes scènes d'action, en fait. J'ai vraiment trouvé ça épouvantable.
Mais j'ai pas dit
ça,
j'ai dit...
Non, mais justement, j'ai trouvé que ça faisait pas la job. C'était genre un putain de coït interrompu à toutes les cordes. On t'annonce des gros tirs de laser, puis on se retrouve à... Oh oui, c'est ça, la séquence d'action finale. Des drones rentrent...
Je regardais plus, moi, ce
moment-là. OK. Ben oui, tu checkais ton cell, là, genre, t'as updaté ton Facebook, là. Mais non, t'as des drones, genre, qui rentrent dans l'endroit où les humains se cachent généralement, puis là, t'as une fusillade, mais c'est établi depuis le début du film que tu peux pas tirer avec un petit gun sur une grosse machine qui a comme quatre gros canons laser, puis qui te voit, puis qui te scanne, puis qui va te détruire en une seconde. C'était une espèce de long plan fucking épouvantable où est-ce que la caméra se promène partout à travers comme ben plein de figurants qui se font désintégrer, mais c'était pas du tout vivant, c'était pas du tout dramatique, c'était aucunement violent à part le fait qu'il y ait du monde qui se faisait désintégrer mais qui devenait de la poussière.
Donc je veux dire ce que j'ai dit, absolument rien de beau à voir dans ce film-là. Rien.
Non, mais j'essaie de donner du crédit à ce film-là, mais en fait, je vais le faire. Il y a une séquence où est-ce que à travers les draps du rideau du salon, un espèce de drone rentre au ralenti, puis c'est ultra drôle, mais c'est comme vraiment cool, mais en même temps super con, mais ça marche. Mais pendant comme peut-être comme 71 frames du film, ça marchait. Puis j'étais comme, ouais. Mais là, le reste, c'est comme, fuck you, là. C'est pas drôle.
Hey, c'est juste moi où les drones, ils ressemblaient à la bébite dans Robocop, là. C'est l'espèce de...
Ouais, ça, ou les bibittes dans la matrice. Ah, mais ces drones-là, là. Ouais, des fois, là, ça prenait 40 coups de gun avec des gros guns pour les tuer, puis il y avait de la misère à les finir. Puis d'autres fois. Ouais, mais ça répète un petit peu plus clair, parce que ce soit en avant, en arrière, il avait l'air d'avoir 4 points faibles à différents endroits, puis des gars lockés une couple de fois, parce que des fois, avec un petit revolver miniature de cheville, avec un coup dans le dos, il tuait d'une shot, alors que d'autres fois, avec un bazooka, ça prenait 8 coups pour à peine faire une agression. À ma nez, là, tu sais.
Bon, je pense que on va mettre fin à cet écrapoutillage de Oblivion de notre ami Kosinski.
Joseph
Kosinski. J'aimerais dire que c'était notre première expérience de 24 quarts de seconde où est-ce que nous allions voir un film et nous faisions une critique finalement à frais.
Ouais, et tout le bruit que vous entendez, c'est qu'on enregistre live du Al Pacino's. Alors,
du Bocancino.
Du Al Pacino's, terrasse sur McGill College, centre-ville, machin.
Et voilà.
Et où Hermione travaille.
Non, là, tu digresses complètement, aucun rapport.
Complètement.
Donc là, on va arrêter ce podcast maintenant parce que j'ai l'impression qu'on va aller n'importe où. Rappelez que vous pouvez trouver nos épisodes sur le site web 24quarks.com. Ah oui! Ce podcast a été accompagné de deux pichets de sangria. Alors voilà, d'où notre humeur festive. Et toi, Olivier, on te retrouve où?
Partout, sauf probablement dans une salle où est projeté Oblivion pour les prochaines semaines.
Donc, promenez-vous partout, rencontrez Oblivion. Alors, nos deux invités, est-ce que vous avez un Twitter, un Facebook, ou est-ce que les gens qui auraient aimé vos commentaires puissent aller jaser avec vous?
Ben, moi, j'ai un SoundCloud. Cherchez SoundCloud/requinblanc. C'est mon nom d'artiste et puis mieux connu sous le nom de White Shark, mieux connu sous le nom de Senior Fuentes. Je produis des beats qui tiennent la route, mais vous pouvez laisser des commentaires. Je reçois juste des commentaires de personnes qui font leur propre publicité, puis ça me déprime un petit peu. Là.
Toi, Philippe, qu'est-ce que tu veux faire comme autopromotion?
Ben moi, en fait, j'ai pas Facebook, là, YOLO, là. Mais j'ai un Tumblr là, où est-ce que hebdomadairement ou annuellement, dépendant, je publie des poèmes puis des photos. Là. Puis, ben, c'est ça, là, 2013.
C'est quoi ton Tumblr?
Mon Tumblr, c'est Tumblr/Philippe Toupin en un seul mot, je pense.
OK. On va checker ça.
Ouais, peut-être Philippe Toupin avec un underscore entre les deux mots. Là.
Bonne chance de le trouver.
Ben, moi, je suis Marie-Lou Guerrier-Py sur Twitter. Et sinon, évidemment, je tweet pour 24 Quarks. Ou vous pouvez aussi aller sur le site web, site Facebook de 24 Quarks, où est-ce que je vérifie et fais des commentaires. Alors, merci beaucoup à vous trois.
Merci.
d'avoir participé à cet épisode.
Et surtout, allez jouer dehors.
Oui, il fait très beau, en fait. Puis on se retrouve pour le prochain épisode, que c'est non identifié qu'est-ce qu'on va faire, mais on va essayer d'être avec Nick cette fois-là.
C'est un dossier mystère.
Oui, on avait parlé de faire District 9, mais...
Tu voulais le punch, là. Comment?
Non, mais on l'a dit la dernière fois qu'on ferait District 9, puis on le fait pas.
C'est vrai.
Donc, ça se peut qu'on fasse pas District 9, puis qu'on continue à faire ça, des films d'été, comme ça. Voilà. Merci. Program complete. Get away from her, you bitch! Shall we play a game? 24 secondes.